Le Kama Sutra de Vatsyayana. Chapitre 2. Des sortes d'unions sexuelles. Les sortes d'unions sexuelles varient selon A. les dimensions, B. la force du désir ou la passion, C. le temps ou la durée. Petit a, sorte d'union selon les dimensions du lingam de l'homme et du yoni de la femme. L'homme est divisé en trois classes, savoir l'homme lièvre, l'homme taureau et l'homme cheval, suivant la grandeur de son lingam. La femme aussi, suivant la profondeur de son yoni, est une biche, une jument ou un éléphant femelle. Il s'ensuit qu'il y a trois sortes d'unions égales entre personnes de dimensions correspondantes et six unions inégales quand les dimensions ne correspondent pas, soit neuf en tout, comme voici. Union égale, homme lièvre, femme biche, homme taureau, femme jument, homme cheval, femme éléphant. Six unions inégales, homme lièvre, femme jument, homme lièvre, femme éléphant, homme taureau, femme biche, homme taureau, femme éléphant, homme cheval, femme biche, homme cheval, femme jument. Dans ces unions inégales, lorsque l'homme surpasse la femme en dimension, son union avec la femme, qui sous ce rapport vient immédiatement après lui, s'appelle haute union, et elle est de deux sortes, tandis que son union avec la femme la plus éloignée de lui pour les dimensions s'appelle très haute union et n'est que d'une sorte. Par contre, lorsque la femme surpasse l'homme en dimension, son union avec l'homme qui vient immédiatement après elle s'appelle basse union, et elle est de deux sortes, tandis que son union avec l'homme le plus éloigné d'elle s'appelle très basse union et n'est que d'une sorte. En d'autres termes, le cheval et la jument, le taureau et la biche forment la haute union, tandis que le cheval et la biche forment la très haute union. Du côté des femmes, l'éléphant et le taureau, la jument et le lièvre forment la basse union, tandis que l'éléphant et le lièvre forment la très basse union. Il y a donc neuf sortes d'unions suivant les dimensions. De ces unions, les égales sont les meilleures. Celles d'un degré superlatif, c'est-à-dire les très hautes et les très basses, sont les pires. Les autres sont de moyenne qualité, et parmi celles-ci, les hautes sont meilleures que les basses. Petit b, sorte d'union selon la force du désir. Il y a aussi neuf sortes d'union suivant la force de la passion ou désir charnel, savoir homme petite, femme petite, homme moyenne, femme moyenne, homme intense, femme intense. Puis six sortes d'union inégales, homme petite, femme moyenne, homme petite, femme intense, homme moyenne, femme petite, homme moyenne, femme intense, homme intense, femme petite, homme intense, femme moyenne. On dit de quelqu'un que c'est un homme de petite passion lorsque son désir au moment sexuel n'est pas vif, que son sperme est peu abondant et qu'il ne peut supporter les chaudes étreintes de la femme. Ceux qui ont un meilleur tempérament sont appelés hommes de passion moyenne et ceux qui sont pleins de désir, hommes de passion intense. De même, les femmes sont supposées avoir les trois degrés de passion comme il est spécifié plus haut. Petit c, sorte d'union selon la durée du rapport. Suivant le temps employé, il y a trois catégories d'hommes et de femmes, savoir ceux ou celles qui emploient peu de temps, ceux ou celles qui emploient un temps modéré et ceux ou celles qui emploient un long temps. Et de là résultent, comme dans les combinaisons précédentes, neuf sortes d'unions. Mais sur ce dernier point, les opinions diffèrent au sujet de la femme et il faut le constater. Uddalaka dit « Les femmes n'émettent pas comme les hommes ». Les hommes assouvissent simplement leurs désirs, tandis que les femmes, dans leur conscience du prurite, ressentent une certaine sorte de plaisir qui leur est agréable, mais il leur est impossible de vous dire quelle sorte de plaisir elles ressentent. Un fait qui rend ceci évident, c'est que, dans le coït, les hommes s'arrêtent d'eux-mêmes après les hautes unions qui sont réputées meilleures que les basses, car dans les premières, il est aisé à l'homme de satisfaire sa passion sans faire de mal à la femme, tandis que, dans les secondes, il est difficile que la femme soit entièrement satisfaite. Cette opinion, toutefois, se heurte à une objection. C'est que si l'homme fait durer l'acte longtemps, la femme l'aime davantage, et que s'il le fait trop vite, elle est mécontente de lui. Et cette circonstance, disent quelques-uns, prouverait que la femme aimait aussi. Mais cette opinion n'est pas fondée, car s'il faut un long temps pour calmer le désir d'une femme, et que durant ce temps elle ressente un grand plaisir, il est tout à fait naturel qu'elle souhaite de le voir durer. Et là-dessus, il y a un verset dont voici le texte. Par l'union avec les hommes, la lubricité, le désir ou la passion des femmes sont satisfaits, et le plaisir qu'elles en ressentent est appelé leur satisfaction. Les disciples de Babravia, d'un autre côté, disent que le sperme des femmes continue à tomber du commencement à la fin de l'union sexuelle. Et cela doit être car si elle n'avait pas de sperme, il n'y aurait pas d'embryon. Ici encore, on objecte, au début du coït, la passion de la femme est moyenne et elle a peine à soutenir les vigoureuses poussées de son amant. Mais par degrés, sa passion s'accroît jusqu'à ce qu'elle n'ait plus conscience de son corps et alors enfin, elle éprouve le désir de cesser le coït. Cette objection, toutefois, est sans valeur. Car même dans les choses ordinaires qui se meuvent avec une grande force, comme une roue de potier ou une toupie, la motion, pour commencer, est lente, mais par degrés devient très rapide. De même, la passion d'une femme s'étant graduellement accrue, elle éprouve le désir de cesser le coït quand tout son sperme est écoulé. Et il y a là-dessus un verset dont voici le texte. L'émission du sperme de l'homme a lieu seulement à la fin du coït, tandis que le sperme de la femme s'écoule d'une manière continue, et quand le sperme de l'un et de l'autre est tout entier écoulé, alors ils éprouvent le désir de cesser le coït. Enfin, Vatsyayana est d'avis que le sperme de la femme s'écoule de la même façon que celui de l'homme. Maintenant, quelqu'un pourra demander ici si l'homme et la femme sont des êtres de même espèce, et concourent tous deux au même résultat. Pourquoi ont-ils chacun des fonctions différentes à remplir? Vatsyayana répond qu'il en est ainsi parce que les manières d'opérer, aussi bien que la conscience du plaisir, sont différentes chez l'homme et chez la femme. La différence dans les manières d'opérer, l'homme étant agent et la femme patiente, est due à la nature du mâle et de la femelle. Autrement, l'agent pourrait être quelquefois le patient et vice-versa. Et de cette différence dans les manières d'opérer suit une différence dans la conscience du plaisir. Car l'homme pense « cette femme m'est unie » et la femme pense « je suis unie à cet homme ». On peut observer, si les manières d'opérer sont différentes chez l'homme et chez la femme, pourquoi n'y aurait-il pas une différence dans le plaisir même qu'ils ressentent et qui est le résultat de ces manières d'opérer ? Mais cette objection est sans fondement, car l'agent et le patient étant des personnes de différentes sortes, il y a une raison pour qu'ils opèrent de différentes manières, mais il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une différence quelconque dans le plaisir qu'ils ressentent, parce que ce plaisir dérive naturellement pour tous deux de l'acte qu'ils accomplissent. Et là-dessus encore, quelques-uns pourront dire, lorsque différentes personnes sont occupées au même ouvrage, nous voyons qu'elles concourent au même but ou objet, tandis qu'au contraire, dans l'union de l'homme et de la femme, chacun d'eux poursuit son but séparément, ce qui est illogique. Mais l'observation n'est pas juste. Car nous voyons quelquefois deux choses faites en même temps, comme dans le combat de bélier, où les deux béliers reçoivent, chacun en même temps, le choc sur leur tête. Si l'on observe que dans ce cas, les éléments employés sont de même sorte, on répondra que dans le cas de l'homme et de la femme, la nature des deux personnes est aussi la même. Et comme la différence dans leur manière d'opérer provient seulement de leur différence de conformation, il s'ensuit que les hommes éprouvent la même sorte de plaisir que les femmes. Il y a aussi là-dessus un verset dont voici le texte. Les hommes et les femmes étant de même nature, trouvent la même sorte de plaisir. Et conséquemment, un homme doit épouser une femme qui puisse l'aimer toujours dans la suite. Conséquemment, dans chaque sorte particulière d'union sexuelle, les hommes doivent employer tel moyen qu'ils jugeront convenable pour l'occasion. La première fois qu'a lieu l'union sexuelle, la passion de l'homme est intense et le temps qu'il y met court. Mais dans les unions subséquentes de la même journée, c'est le contraire qui arrive. Il en est tout autrement de la femme, car à la première fois, sa passion est faible, et le temps qu'elle y met, long. Mais aux reprises subséquentes de la même journée, sa passion est intense, et le temps court jusqu'à ce qu'elle soit pleinement satisfaite. Fin du chapitre 2.